France Info.
Bonsoir à tous. La fin du grand débat, nous y voilà, mais il ne fait que commencer ce soir dans les informés avec nos invités. Comment l'exécutif se prépare? Est-ce seulement possible de contenter tout le monde, de ne pas décevoir? Le ministre des Comptes publics a fermé beaucoup de portes aujourd'hui. Quelles peuvent être les pistes, les marges de manœuvre du gouvernement? Tout cela va nous occuper ce soir un bon moment. Mais nous parlerons aussi de la campagne des européennes, des listes de gauche. Combien de divisions, combien de survivants à l'arrivée? Puis nous évoquerons aussi la situation de Carlos Ghosn, l'ancien patron de Renault-Nissan, de nouveau arrêté au Japon. Son épouse est rentrée en France. Elle lance un appel à Emmanuel Macron. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir dans les informés de France Info Serge Simineau, journaliste politique à France 3. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être là. Bruno Dib, journaliste politique, éditorialiste à Sud-Ouest. Bonsoir Bruno.
Bonsoir.
Denis Sieffert, directeur de la rédaction de Politis. Bonsoir Denis.
Bonsoir.
Merci d'être là et merci aussi à vous François Ehrenwein, journaliste politique au journal La Croix. Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci aussi à vous d'être là sur le canal 27 de la TNT et à la radio. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Allez, près de la moitié du gouvernement, les cinq garants, des citoyens représentants d'associations, mais aussi des maires, une centaine de directeurs d'administration seront réunis demain sous les ors du Grand Palais à Paris. Le Premier ministre va livrer la synthèse des contributions des Français au grand débat national qui a été déclenché, vous le savez, en réponse à la crise des Gilets jaunes. On écoute avant cette réunion au Grand Palais la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa.
Il y a forcément des gens qui ne seront pas d'accord avec à la fois le compte-rendu et ensuite les propositions. On sait très bien qu'on n'est pas dans une situation dans laquelle on peut satisfaire 100% de la population. Mais je crois que les propositions du président et les décisions, les arbitrages du président de la République seront assez forts. Mais on les connaîtra et je pense qu'ils seront de nature à renverser la table et à faire en sorte qu'il y ait énormément de choses qui changent, à la fois en termes de pouvoir d'achat ou de pouvoir de vivre, selon l'expression qu'on choisit, mais aussi en termes d'inclusion de chacun dans le processus démocratique.
Voilà, Marlène Schiappa sur TV5 Monde ce midi. Alors, est-ce que les réponses du gouvernement et du président seront de nature, comme le vient de le dire Marlène Schiappa, à renverser la table? Qui veut répondre? Cette phrase a beaucoup fait réagir, je vous le dis tout de suite. Bruno Div.
Oui, je crois que c'est une expression qu'on va entendre beaucoup dans cette semaine, parce que vous avez évoqué la réunion du Grand Palais demain, mais c'est qu'un apéritif, hein, c'est un zakouski, c'est la remise des conclusions du grand débat. C'est la semaine du Premier ministre qui présentera ensuite un peu une sorte de
oui,
méthode
mardi à l'Assemblée, mercredi
à l'Assemblée
au Sénat.
Nationale, puis au Sénat. Mais on va rester cette semaine dans une espèce de discours de la méthode, de phase de transition, c'est ce qu'on dit à Matignon, hein, même. Donc, et les décisions elles-mêmes concrètes, de nature à renverser la table. Donc on verra. Je pense qu'on va entendre cette expression toute la semaine. Eh bien, il va falloir attendre encore facilement une semaine, huit jours, ou peut-être un peu plus pour les connaître. Mais là, ce que fait ce travail de préparation est nécessaire sans doute, mais il est à double tranchant, parce que si on est en train de créer une attente qui est très forte, attention à ne pas décevoir dans 8 jours, forcément.
À l'arrivée, est-ce que ça peut vraiment renverser la table ou c'est vraiment une expression? Comment vous l'entendez, vous, Denis Sieffert?
Oui, c'est une expression probablement un peu abusive.
Ouais.
Je pense que dès le début, d'ailleurs, le président de la République avait dit qu'on ne changerait pas de cap. Donc, renverser la table, ce serait ça. Ce serait vraiment réorienter complètement la politique économique du gouvernement. Ce n'est pas d'actualité, d'après ce que...
Ah, on ne le sent pas trop comme ça.
C'est pas ça qui va arriver. Donc, Édouard Philippe avait d'ailleurs dit à un moment donné qu'il fallait craindre, disons, une réaction un peu déceptive. Et je pense qu'ils s'attendent à ça. C'est-à-dire qu'évidemment, ils vont décevoir. Ils s'apprêtent à décevoir. Et demain, on aura peut-être quelques indications, parce qu'en fonction de ce qui va être retenu pour la synthèse, on pourra imaginer qu'il y aura quelques pistes pour les solutions que le président de la République va promouvoir ensuite. Mais on n'en saura peut-être pas plus pour autant. Et puis, je pense que, de toute façon, c'est une idée qui était tout à fait génial en termes de communication politique, mais que là, au bout du chemin, il risque d'y avoir quelques problèmes et de grosses déceptions, et peut-être réactiver même la crise politique.
Je retiens quand même que vous avez dit génial.
Oui, en termes de communication, je le crois. C'est-à-dire qu'effectivement, le président Pé a gagné du temps par rapport à la mobilisation, mais il y a un proverbe arabe qui dit il faut accompagner le menteur jusqu'au pas de la porte, et le pas de la porte, on y est maintenant. Donc ça servait à rien d'instruire des procès d'intention, mais là, peut-être qu'en effet, ça risque de mal finir quand même pour le gouvernement.
Gagner du temps, peut-être le temps de trouver la bonne idée. Est-ce qu'ils ont trouvé la bonne idée, Serge Simuneau? Vous êtes pessimiste, optimiste sur l'issue de ce grand débat?
Moi, j'ai envie de citer un grand philosophe, qui est Édouard Philippe, qui a dit « Nous allons commencer à dire ce que nous retenons de ce qui a été dit ». Voilà comment il résume la grande manifestation demain, spéciale « Renversons la table au Grand Palais ». Donc, je pense que, effectivement, Édouard Philippe laissera, Bruno Dive le disait, laissera la place au président de la République pour les annonces. Après, on verra ce qui a été retenu entre les doléances, le grand débat. Il y aura peut-être des portes qui vont se fermer, mais je crois que celui qui a la clé de toutes ces portes, c'est effectivement le président de la République, avec, et là encore Bruno le disait, il l'a dit lui-même, il n'y aura pas 66 millions de gens satisfaits, je ne vais pas me servir de mon chéquier, mais pour autant, je crois que l'exécutif doit se dire quelque chose, et c'est un conseil très présomptueux que je leur donne, ils ne doivent pas répondre seulement aux gilets jaunes maintenant, mais répondre aux 66 millions de Français. Et là, les revendications sont tout autres. Un exemple, il y a des gilets jaunes, mais je pense qu'aujourd'hui, chaque Français porte dans sa tête un gilet, quelle que soit sa couleur, et que le président de la République aura peut-être besoin la semaine prochaine d'un gilet de sauvetage pour tenter de répondre en tout cas à certaines demandes, et je pense en particulier celle sur le pouvoir d'achat.
Alors Serge Simuneau vient de répondre, François Hernenwein va le faire dans un instant, mais on va d'abord écouter le rappel de l'info, mais on poursuit sur ce même thème, hein, du grand débat, des résultats attendus de la première synthèse qui sera dévoilée demain au Grand Palais à Paris. On poursuit ce débat avec nos invités. Après donc, le rappel de l'info parce qu'il est 20h10, c'est avec Jules De Kiss.
Un accident de manège ce soir dans le Pas-de-Calais à Bapaume. Le wagon d'un train chenille s'est retourné. Il y a 8 blessés légers, dont 6 enfants, tous hospitalisés. 30 pompiers ont été mobilisés. Une enquête est ouverte. Yannick Jadot ne veut pas d'accord avec le PS et place publique pour les européennes. En revanche, il veut bien de leurs électeurs. Il appelle aujourd'hui les socialistes à voter pour sa liste. Sa principale différence, selon lui, c'est qu'il ne votera pas les accords de libre-échange au Parlement européen. Les étudiants étrangers déjà scolarisés en France ne verront pas leurs frais d'université augmenter à la rentrée prochaine. Seuls les nouveaux arrivants seront concernés par la mesure, précise aujourd'hui le secrétaire d'État à la jeunesse, Gabriel Attal. La hausse prévue est considérable, 2700 euros pour une année de licence contre 170 jusqu'à maintenant. Coup de barre à droite pour le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. En pleine campagne, à 2 jours des élections législatives, il propose d'annexer les colonies en Cisjordanie où vivent 400 000 Israéliens. Une annonce irresponsable pour son opposant de centre-droit. Lui dit qu'il fera tout son possible pour trouver un accord de paix régional avec la Palestine. Un 8e titre de champion de France ce soir pour le Paris Saint-Germain. C'est possible en cas de victoire au Parc des Princes contre Strasbourg. Il ne pourrait alors plus être rattrapé par le deuxième, Lille. Les Dogs ont concédé le nul 1-1 à Reims en début d'après-midi.
France Info. 20h-21h, les informés. Julien Langlais.
Allez, pour laisser le temps à François Hernenwein, journaliste politique à La Croix, de nous répondre sur ce grand débat. Marlène Schiappa, qu'on a entendu tout à l'heure parler de renverser la table. En même temps, elle disait aussi que ça ne contenterait pas tout le monde. Donc, elle a un peu dit, elle a un peu fait du en même temps, finalement, dans sa réponse.
C'est frappant. Vous avez raison de le noter. D'ailleurs, on va pas faire l'exégèse de toutes les formules qui circulent actuellement. Il y a renverser la table. Je vous en livre une autre que vous avez dû voir passer. Plus rien ne sera comme avant aussi. Ça, c'est un socle. Mais la contradiction, elle est dans ce que vous venez de dire. Si on change pas de cap, on renverse pas la table. Si on change pas de cap, les choses seront comme avant. Donc, la question la plus intéressante, à mon avis, sur la sortie du grand débat, c'est à quel niveau de discours le président de la République va se situer. Et je pense que là, il faudra un partage des rôles intelligent entre le Premier ministre et le chef de l'État. Le risque est le suivant. Si le président de la République égrène quelques mesures, il faudra des mesures, mais s'il égrène simplement quelques mesures, il ne donne de sens à rien. C'est simplement la réponse aux questions posées. Or, à mon avis, pour sortir de la crise des Gilets jaunes, ce que la France vient de vivre, une des fonctions du président de la République, c'est donner du sens, la direction de la fin de son mandat, et s'il n'est pas capable de réorienter par un travail critique sur l'expérience de la première séquence de son mandat, alors là, il y aura un sérieux problème. Et on voit bien, d'ailleurs, le point d'équilibre ou le point de bascule. Les ministres de droite tiennent à la politique qui a été conduite depuis un an et demi, puisqu'en gros, c'est une politique de droite. Donc, ils s'organisent,
Je saisis ce que vous dites, une politique de droite, parce que justement, on va écouter et Valérie Pécresse, qui s'exprime justement sur ce grand débat, c'est très intéressant. Je saisis la balle au bon, parce que vous parlez d'une politique de droite menée par le gouvernement. Voici ce qu'en dit Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, sur le résultat attendu de ce grand débat.
Le grand débat n'aura été utile que s'il aboutit à des décisions extrêmement fortes. Et moi, j'appelle évidemment à une inflexion politique de la part du gouvernement. Une inflexion politique dans trois directions. D'abord, la restauration de l'autorité. Ensuite, un chemin de baisse des impôts par la baisse de la dépense. Donc il faut afficher des baisses de dépenses pour pouvoir avoir durablement des baisses d'impôts. Et puis, pour la cohésion nationale, pour la renforcer, je demande une nouvelle étape de la décentralisation.
Alors voilà, c'est intéressant, Valérie Pécresse, qui, je crois, est de droite, et donc demande une autre politique, alors que, selon vous, François, vous dites qu'elle est de droite, Bruno Dive.
Non, il y a plusieurs choses. Renverser la table, ça ne veut pas forcément dire, pour Emmanuel Macron, je ne suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit, revenir sur la politique qu'il a menée. Renverser la table, ça pourrait vouloir dire faire engager des réformes systémiques fondamentales. On parle de la fiscalité, je pense qu'on va en reparler.
Oui.
Ça voudrait, par exemple, vouloir dire on remet à plat toute la fiscalité, on remet à plat l'impôt sur le revenu. C'est pas ce qui va se passer, probablement.
Non, ça serait fermer beaucoup de portes.
Il va visiblement y avoir, on va y revenir, des baisses d'impôts ciblées, ici ou là, des suppressions d'impôts, peut-être. Donc, il va y avoir des mesures annoncées concrètes qui vont parler aux gens, mais on ne va pas être dans quelque chose qui renverse la table. Même chose pour la décentralisation qu'évoquait Valérie Pécresse. Moi, j'ai été frappé par une interview la semaine dernière de Jacqueline Gourault, qui est la ministre de la cohésion des territoires. Je pense qu'elle parlait tout de même en connaissance de cause de ce qui va se dire. Elle a tout de même fermé beaucoup de portes. L'acte 3 de la décentralisation que réclament les présidents d'associations d'élus, c'est une grande décentralisation pour redonner du souffle un peu au pays. Elle n'a pas du tout laissé entendre. Elle a expliqué que c'est pas ce que les gens demandent. Ce qui est vrai, d'ailleurs, les gens ne demandent pas. Ce sont les maires qui demandent ça, mais pas tellement
les gens demandent
public.
Du pouvoir d'achat, souvent.
Voilà. Et donc, on n'est pas parti pour un acte 3 de la décentralisation. Donc, on va pas énormément renverser la table. Quant à la politique de droite, bon, on reviendra. Je ne vais pas me dire...
Allez-y, François.
Je ne veux pas être cornérisé dans ce débat. Non. C'est assez simple. Je voudrais noter quand même au passage que si on ferme la porte, c'est encore plus difficile de renverser la table, parce qu'on ne peut pas rentrer dans la pièce pour renverser la table. Trêve de plaisanterie. Le fond de mon raisonnement, je ne veux pas entrer dans une logique droite-gauche, disant qu'il faudrait qu'il passe de droite à gauche. Mais sa politique était quand même dominée, et le jugement des Français était assez sévère sur les déséquilibres de la politique conduite pendant près de 2 ans. La question qui est posée, s'il doit y avoir une réorientation politique, il faudra évidemment mettre l'accent...
Sur le social, peut-être,
sur le social, parce que... Il y a eu un fort sentiment d'injustice. Je vois pas comment on peut fermer la porte de la décentralisation ou de l'aménagement du rôle et de la place des maires, alors que la moitié de la révolte des Gilets jaunes concernait les territoires ruraux. Là, il y a des chantiers sérieux. Il faudra quand même répondre aux questions posées.
Serge Simineau voulait répondre.
Oui, juste, c'est bien d'en débattre là, mais on n'est pas coupé de la réalité de ces derniers mois. Le mouvement des Gilets jaunes qui débute en novembre, ce grand débat qui a démarré en janvier, même s'il était annoncé en décembre par le président de la République, est-ce qu'il a le temps? J'entends le systémique, mais il y a quand même la nécessité d'un temps court. Alors, il ne s'agit pas de ne faire que des annonces, mais il faudra quand même en faire. Ensuite, peut-être qu'il pourra poser quelques jalons sur des réformes plus compliquées, parce que ce n'est pas non plus un coup de baguette magique. Et comme il l'a dit lui-même, il ne pourra pas sortir le chéquier. Mais pour autant, l'actualité peut-être de dimanche prochain ou de lundi, on ne sait pas quand le président de la République s'exprimera, certains parlent de dimanche, il aura quand même cette urgence de répondre à un certain nombre de points qui seront arbitrés. et c'est là que je reviens à ce que vous disiez, par certains ministres qui, effectivement, qui viennent de la droite et qui sont déjà en train de poser tous leurs jalons sur le débat qu'on aura tout à l'heure, sur les taxes, sur la réforme fiscale et tout ça. Donc, ce en même temps, là, est en plein tiraillement. Et le président de la République ne pourra pas faire l'économie d'annonces immédiatement réalisable, ce qui n'empêchera pas peut-être de s'approcher d'une table avant de la renverser.
Denis Sieffert, est-ce qu'il ne faudrait pas un virage social de la politique gouvernementale ?
Oui, enfin moi quand j'entends renverser la table, c'est ça que je suppose. Moi, ouais. Je sais que c'est une formule, on ne va pas faire l'exégèse de cette formule.
Non,
parce... mais cela dit, c'est le seul sens que ça peut avoir, parce que pour l'instant... En effet, ça a été dit, c'est quand même une, ça a été une politique de droite. Hein. D'ailleurs, Édouard Philippe s'y reconnaît dans cette politique-là. Il vient quand même de la droite et beaucoup d'autres. Donc là, maintenant,
droite modérée, on peut dire.
La question qui se pose, en effet, c'est le pouvoir d'achat. C'est, les gilets jaunes ont quand même posé cette question-là. Les services publics, le pouvoir d'achat, une réforme de la fiscalité, et tout ça, semble-t-il, a été par avance. Annulé. Il n'est pas question d'opérer ces virages. Donc ça va être très compliqué. On risque d'avoir, et si on lit l'entretien en effet de Darmanin aujourd'hui dans le JDD, il conforte quand même toujours, il accentue cette politique. Les réformes fiscales, elles vont encore profiter aux 10% les plus riches, etc. Donc je vois pas très bien là, quelle table on va renverser. Et je crois qu'il va se heurter à une base sociale qui est les classes moyennes, ceux qui ont en effet été la grande armée des gilets jaunes et beaucoup d'autres autour d'eux, et puis les classes inférieures qui sont moins actives pour l'instant dans le mouvement, mais qui peuvent entrer aussi au mouvement si c'est ressenti comme une agression, ce que je pense que ça va être.
Bon, alors Denis Sieffert, vous avez évoqué justement Gérald Darmanin, le ministre des Comptes Publics. C'est vrai, il a donné une longue interview au journal du dimanche aujourd'hui. Alors il ferme beaucoup de portes à plusieurs réformes fiscales qui étaient notamment demandées par les Gilets jaunes. On va en parler, hein, mais parmi les portes fermées, c'est par exemple la suppression de l'ISF, la TVA sur les produits de première nécessité, ce sera non aussi. L'impôt payé par tous, ce sera non aussi. À l'arrivée, reste pas beaucoup de solutions. C'est ce dont on va parler juste après le rappel de l'info, car oui, il est 20h20 et Jules Dequisse est là pour les infos.
Les Nations Unies demandent en urgence une trêve des combats en Libye pour évacuer les blessés. Depuis 3 jours, les forces gouvernementales s'opposent à celles du général qui contrôle l'est du pays. Il veut marcher sur Tripoli et conquérir tout le territoire. Déjà 21 personnes sont mortes dans les affrontements. La cantine à 1 euro le repas. La mesure entre en vigueur dans 10 jours, annonce le gouvernement. Les communes volontaires prendront en partie les coûts à leur charge et recevront 2 euros d'argent public par menu. Et d'ici la fin du mois, il y aura aussi des petits déjeuners gratuits dans les écoles des quartiers en difficulté, deux mesures du plan pauvreté présentées en septembre. La barre des 4 millions d'euros de dons franchie ce soir pour le site Action. À minuit, l'opération de ce week-end se termine, mais le 110 reste ouvert jusqu'à la fin du mois d'avril au moins. C'est le numéro à composer pour financer la recherche et la prévention contre le sida. Les Parisiens vont-ils profiter du faux pas lillois et devenir champion de France de football dès ce soir ? Lille a concédé le nul un partout sur la pelouse de Reims. Le PSG peut donc être sacré s'il s'impose à domicile contre Strasbourg. Coup d'envoi donc 40 minutes à 21h. Et puis en rugby, deuxième match nul de la saison pour Clermont à domicile cette saison. 31 partout contre le Racing 92. Les Clermontois, deuxième du top 14 devant Lyon, qui reprend sa troisième place à Castres. Belle victoire à l'extérieur contre Pau, 27 à 24.
France Info. 20h, 21h, les informés. Julien Lenglet.
Voilà, Jules Dequisse pour l'info à qui on a un petit peu coupé le sifflet. Supporter numéro 1 du Paris Saint-Germain, il est un petit peu angoissé ce soir. Non, c'est pas vrai. Ça devrait aller pour les Parisiens. Avec nos invités retour dans les informés sur ce débat, donc, et ce grand débat et ce premier bilan qui va être fait demain au Grand Palais. On évoquait justement les solutions. Alors, quelles solutions peut apporter le gouvernement? On évoquait cette interview de Gérald Darmanin dans le journal du dimanche aujourd'hui. Et je le disais juste avant le rappel de l'info. Il y a un problème, c'est que Gérald Darmanin semble fermer la porte à énormément de propositions, en tous les cas, qui sont remontées dans les différentes réunions, les débats organisés. C'est un petit peu contradictoire. Alors, est-ce qu'il prêche uniquement pour sa paroisse? Quel est votre avis? Ou est-ce que c'est déjà une tendance, une indication de ce qui va ressortir du grand débat? Qui veut répondre? Bruno ?
Je veux bien. Je trouve que Gérald Darmanin, en effet, ferme un certain nombre de pistes. Et c'est un des problèmes que va avoir le gouvernement. On s'aperçoit que les demandes des Français, il y a un sondage également publié dans le journal du dimanche, qui liste les principales demandes de baisse d'impôts des Français. Il y a en tête la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, la baisse suppression de la redevance, puis les droits de succession. Et le rétablissement de l'ISF, ça c'est à part, c'est pas une baisse d'impôts. Donc,
en même temps, si on demande la question aux Français, si vous voulez que les impôts baissent, je pense qu'ils vont répondre.
Oui, mais c'est ces impôts-là qui demandent. Sont ciblés. Et Gérald Darmanin, dans cette interview, avec des arguments d'ailleurs, ferme en effet la porte, notamment à la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, avec un argument qui est tout à fait recevable, puisqu'il explique que ça n'est souvent, les baisses de TVA ne sont en général pas répercutées par les intermédiaires. Donc les Français ne s'en rendraient pas compte. Voilà ce que je crois, et ça...
Allusion à celle peut-être des restaurateurs, non, qui avait été...
Oui, aussi, il y avait eu ça sous Nicolas Sarkozy, ouais. Absolument. Moi, ce que je crois, c'est que le gouvernement va bouger sur l'impôt sur le revenu. Il en parle, le ministre, là, en parle de manière assez prudente, elliptique, parce qu'il y a un débat.
C'est une piste parmi d'autres.
C'est une piste, oui, mais c'est une piste importante, quand même, parce que c'est tout de même un impôt qui pèse sur une partie de plus en plus réduite de la population, notamment sur les classes moyennes, qui ont souvent l'impression d'être les seuls à fournir l'effort. Et je pense que c'est là-dessus que le gouvernement va bouger. Alors, il y a un débat sur les modalités, façon d'entrer, d'en baisser les premières tranches ou seulement ou toutes les tranches, en rajouter d'autres, enfin, améliorer la progressivité. Il y a un débat entre le groupe En Marche et le gouvernement là-dessus, visiblement. Donc je pense que tout n'est pas arrêté. C'est pour ça que Gérald Darmanin a été prudent. Mais je crois que c'est là que le gouvernement est attendu. Et puis, juste pour finir, il y a une porte qui, elle, n'a pas été du tout ouverte. C'est parce que qui dit baisse d'impôts, si on veut quand même respecter nos engagements budgétaires, il faut tout de même trouver des compensations et donc des économies. Et alors ça, la baisse des dépenses, notre ministre du budget, des comptes publics, est d'une prudence de sioux. C'est de toute façon l'un des grands oubliés du grand débat, la baisse des dépenses. Alors,
vous l'avez évoqué, Bruno, mais ça ressemble plus à des petites mesurettes, ce que vous dites, qu'un grand soir fiscal. Il n'y a pas énormément de grandes réformes à attendre.
C'est ce que je disais tout à l'heure. S'ils ne remettront pas en cause l'ensemble de la fiscalité, mais ils peuvent toucher à l'impôt sur le revenu de manière tout de même assez conséquente.
Denis Schaeffer.
Mais moi, ce qui me frappe, c'est qu'on parle toujours, c'est d'ailleurs le titre de l'entretien, de la baisse des impôts. Effectivement, si on demande aux Français s'ils veulent la baisse des impôts, en général, ils sont d'accord. Mais pour qui les impôts vont-ils baisser? Pour qui vont-ils augmenter? Je crois que la vraie revendication, pas seulement des gilets jaunes, mais d'une grande partie de la population, c'est un impôt plus juste, plus d'égalité, une justice fiscale. Ce qui signifie que c'est pas la baisse des impôts pour tout le monde. Or, quand on voit ce que dit Gérald Darmanin, c'est la baisse des impôts, encore une fois, plutôt pour les 10% les plus riches. La taxe d'habitation, par exemple, dont on nous dit qu'elle sera annulée pour tout le monde.
D'ici la fin du quinquennat, c'est ce qu'il répète dans l'interview.
Là, en l'occurrence, ça concerne les 10% les plus riches. Donc, encore une fois, c'est une baisse d'impôt.
Si, c'est, oui, c'est mais absolument, ça concernait tout le monde auparavant.
Ah oui, ça concernait tout le monde auparavant. Ouais. Mais la mesure nouvelle qui est proposé dans cet entretien, ça concerne les 10% les plus riches. Donc il n'y a pas que ça, mais toutes les mesures qu'il évoque sont des mesures qui touchent les plus riches à leur profit, à leur avantage. Donc je pense qu'on n'est pas du tout, on va pas du tout vers une situation de plus grande égalité fiscale, et je crois que ça c'est aller au-devant de pas mal de désagréments.
Ni d'apaisement social, si je comprends bien ce que vous dites, Serge Simino.
Oui, mais au-delà de la liste qu'évoquait Bruno Dive, effectivement, les Français veulent moins d'impôts. Mais ce qui est étonnant dans cet entretien, c'est que l'équilibre à trouver, c'est que moins d'impôts, il faudra donc non pas trouver de nouvelles ressources, mais moins dépenser. Et là, Gérald Darmanin, bien évidemment, revient sur la nécessité de baisser la dépense publique et le mantra du non-remplacement des fonctionnaires. Mais ce qui est assez cocasse dans cette histoire, c'est que ça ne répond pas à une certaine partie des revendications des Gilets jaunes, celle des territoires oubliés, celle de la nécessité des services publics. Donc, d'un côté, on dit, regardez, les impôts vont baisser, c'est le titre de l'article. Mais d'un autre côté, vous allez devoir le payer d'une autre manière, puisque moins de fonctionnaires, c'est moins de services publics, alors que c'est une des demandes, si l'on parle que des gilets jaunes, de la population française. Et puis juste un point, je fais rapide, qu'on rebondisse quand même sur l'un des points que apparemment Monsieur Darmanin partage avec ce sondage, c'est la suppression de la redevance. Excusez-nous d'exister dans l'audiovisuel public. Je ne sais pas par quoi il va le remplacer. Donc effectivement, c'est facile de supprimer un certain nombre d'impôts. encore faudrait-il les financer. Sauf si le but, je fais un peu boutique, sauf si le but c'est d'agresser directement l'audiovisuel public, j'arrête d'en parler, ça fait un peu de pote.
Ou d'inventer une nouvelle taxe peut-être sur
Monsieur
les
Attal,
tablettes ou un autre
Monsieur Attal parlait tout à l'heure sur France 3 dans l'émission de Francis Letellier d'un retour à la pub. Où est Nicolas Sarkozy?
Ah oui, c'est vrai, qui avait supprimé la publicité sur les chaînes. Rapidement, Bruno, une seconde.
Toujours, il ne s'agit pas de répondre aux gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est vraiment une toute petite partie, d'ailleurs, décroissante.
Oui, mais c'est pour ça que le débat a été organisé en réponse à la crise des gilets jaunes.
Il s'agit de répondre au débat où il y a eu beaucoup plus de participants
français. On est bien d'accord.
Le débat. Une catégorie qui a été soutenue quand même très largement par l'opinion.
Voilà, le débat reprend juste après l'info, la météo et un point également sur le trafic. À tout de suite dans les informés.
France Info Trafic avec Calibat, 73 000 entreprises pour vos travaux de construction et de rénovation. Retrouvez-nous sur calibat.com.
Pauline Renoir, ça se débloque du côté de Paris ce soir.
Ouais, ça se débloque sur la 13. Plus que 9 km de ralentissement entre Épone et Poissy à l'est de la capitale. La circulation redevient fluide au niveau de Mantes-la-Ville. Un accident toujours en cours au nord de Lyon sur l'A46 entre Villefranche-sur-Saône et Lyon. Vous ne roulez plus que sur une voie entre les sorties 2 et 3. Un autre accident sur la 6 dans le sud de Lyon dans le sens Paris-Lyon entre Aubagne et Beaune. Et puis dans le sud-est, une partie de la 52 est fermée dans les deux sens entre Aubagne et Aix-en-Provence. Sortie obligatoire à hauteur de l'échangeur 33 au niveau de Pas-de-Trait.
Merci Pauline Renoir au PC Route de Radio France.
France Info Météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, récolté à la main par les petits producteurs dans le respect de la biodiversité. À retrouver sur malongo.com.
Jean-Michel Golinski à Météo France.
Demain, les régions proches des frontières du Nord et de l'Est vont conserver un ciel chargé d'averses, donnant de la neige à partir de 1200 mètres le matin sur le Jura. Plus à l'ouest, la façade atlantique verra progressivement arriver les nuages d'une nouvelle perturbation et même d'un peu de pluie au fil de la journée sur la Bretagne, la Vendée et de la Sèvre niortaise au sud de la Garonne. Tandis que sur un large couloir central et autour de la Méditerranée, les brouillards et les grisailles seront suivis d'éclaircies, éclaircies plus larges sur les régions provençales. Sur la Corse, le vent d'ouest va pointer vers 80 km à l'heure l'après-midi. Les températures nocturnes, partout au-dessus des gelées en plaine, vont généralement afficher 16 en moyenne l'après-midi, avec 13 à 14 pour les plus basses près de la Manche et 19 pour le maximum sur le département du Gard.
France Info.
De poids, ouvrez l'info.
(20h30) l'info avec Jean-Michel Naga.
Le 7 avril sera désormais une journée de commémoration du génocide au Rwanda, décision annoncée aujourd'hui par Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui était par ailleurs le grand absent des cérémonies qui se sont déroulées à Paris et à Kigali, 25 ans après ce massacre qui a coûté la vie à plus de 800 000 personnes. Ce rendez-vous attendu demain sur le plan politique, les premières conclusions du grand débat. Édouard Philippe présentera le bilan de cette vaste consultation lancée il y a 2 mois et demi pour faire face à la crise des gilets jaunes. Les premières mesures sont annoncées par Emmanuel Macron mi-avril. Les suites de l'incendie spectaculaire hier soir dans le 19e arrondissement de Paris. De sources policières, c'est un barbecue sur un balcon qui l'a probablement déclenché. L'explosion qui a suivi aurait été causée par une bonbonne de gaz. La 25e édition du SIDAction qui se termine ce soir. Pour l'heure, le compteur affiche plus de 4 millions d'euros de dons. Collecte d'autant plus importante que le chiffre du VIH reste très préoccupant. Près de 37 millions de personnes vivent avec le virus dans le monde. Elles sont 173 000 en France. La directrice générale du SIDAction, Florence Thune.
On a eu une belle progression tout au long du week-end. On a eu aussi un effet de ce fameux direct multichaîne vendredi soir et puis de cette émission sur France 2 samedi soir. Je pense que les donateurs ont aussi été marqués par les 25 ans du SIDAction. Ce qui serait effectivement idéal, c'est de se rapprocher du chiffre de l'année dernière à minima qui était à 4,4 millions d'euros. On aura effectivement un chiffre officiel ce soir vers 23h. En revanche, nous on continue à encourager les personnes à donner. Elles pourront continuer à appeler le 110 ou à donner sur le site de SIDAction jusqu'effectivement au moins la fin avril. On rappelle que le SIDAction Média représente un tiers de notre collecte annuelle, donc c'est important de toute façon de continuer à soutenir la recherche et les personnes vivant avec le VIH tout au long de l'année.
Et pour aider la recherche et venir en aide aux malades, un site internet sidaction.org et un numéro de téléphone, le 110, qui restera en fonction pendant plusieurs jours encore. Le Paris Saint-Germain sera-t-il champion de France de Ligue 1 dès ce soir? Le titre leur sera mathématiquement acquis en cas de victoire face à Strasbourg. Le coup d'envoi est à 21h. À signaler que Kylian Mbappé est remplaçant sur la feuille de match. Dans les autres rencontres de la journée, match nul un partout entre Lille et Reims, 1-0 pour Toulouse face à Nantes, victoire sur le même score, 1-0 pour Nice face à Montpellier. Et puis en cyclisme, victoire italienne sur le Tour des Flandres en Belgique, Alberto Bettiol, 25 ans, a remporté l'épreuve cet après-midi en solitaire. 20h33 sur France Info, dans un instant, la suite des informés avec Julien Lenglet et ses invités.
20h, 21h, les informés.
Julien Lenglet.
Les informer, la deuxième partie avec ce soir autour de la table Serge Simino, journaliste politique à France 3, Bruno Dive, journaliste politique et éditorialiste à Sud-Ouest, Denis Sieffert, directeur de la rédaction de Politis, et François Ehrenwein, journaliste politique à La Croix. Vous l'avez compris, on parle beaucoup de politique ce soir. On a parlé des premières conclusions du grand débat. Ce sera demain au Grand Palais à Paris. On va à présent parler des élections européennes et de cette gauche transformée en hydre un peu pour ces européennes, avec tellement de listes, tellement de têtes de listes, dont celle des Verts. Yannick Jadot, ce midi dans le Grand Jury.
Je dis aux électeurs socialistes comme à tous les électeurs humanistes, si vous voulez voter, si vous voulez voter utilement pour l'écologie, pour l'humanisme, il faut voter écologiste. Ça fait des mois qu'on nous propose aux écologistes une union de façade à Paris qui n'aurait pas de cohérence au Parlement européen.
Voilà, Yannick Jadot, tête de liste d'Europe, écologie, les Verts. Vraiment, sincèrement, n'y a-t-il pas trop de listes à gauche? On sent comme un appel au secours un peu de Yannick Jadot. C'est nous les vrais écolos, c'est compliqué. On sent un malaise perceptible à gauche. Denis Sieffert, peut-être?
Oui, bah, malaise, c'est certain, il date même pas de...
Non, c'est sûr. Mais il éclate un peu au grand jour avec toutes ces listes de gauche pour les européennes, tous ces partis finalement en grand danger, j'ai envie de dire. Il n'y a pas que le Parti Socialiste, mais les Verts aussi jouent gros sur cette élection, et finalement, tout le monde part en ordre dispersé. C'est pas l'assurance de faire de tout le monde des perdants.
Ce que j'observe à gauche dans le discours de la plupart des listes, hormis Jadot, qui a sa cohérence propre sur l'écologie, c'est une contestation très forte des règles actuelles de l'Union européenne, les uns disant désobéir aux traités, les autres sortir des traités, je sais pas trop ce que veut dire, si on sort pas de l'Union européenne. Mais enfin, en tout cas, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire finalement que c'est pas ces élections-là qui vont permettre ce genre de virage. C'est la présidentielle,
bien sûr.
C'est les législatives. Et on peut se demander si certaines listes, finalement, font pas un peu l'impasse, c'est peut-être de l'ordre de l'inconscient, je sais pas, un peu l'impasse sur ce scrutin des européennes. France Insoumise, mais aussi toutes celles qui contestent, peut-être à juste titre, c'est pas la question, qui ont bien des raisons de le faire, désobéir aux traités ou sortir des traités, c'est pas avoir quelques députés de plus ou de moins au Parlement de Strasbourg qui va permettre ça.
En c'est revanche, bien de rappeler cette réalité quand même.
En revanche, c'est avoir peut-être le pouvoir en France à un moment donné pour, comme l'a dit à plusieurs reprises Mélenchon, faire jouer un rapport de force par rapport aux partenaires européens et puis peut-être renverser la table.
Mais c'est bien d'expliquer ça.
C'est la formule du jour.
Oui, le renversement de table, et l'ouverture des portes, fermeture. On a parlé beaucoup de choses. J'espère pas trop de courant d'air. Serge Simino.
Oui, il y a deux niveaux. Soit on parle des programmes et à un moment donné, l'union ne peut pas se faire. Yannick Jadot le dit à sa manière. On m'a proposé un accord de façade à Paris, mais à un moment donné, il y a une véritable différence politique sur le débat européen. Il y a une gauche qui veut parler d'une autre Europe, voire parfois d'en sortir, qui ne pouvait pas faire alliance, bien évidemment, avec cette gauche pro-européenne. Donc, il faut déjà séparer ça. Bien évidemment que la gauche est en miettes. Pour autant, comment imaginer que Benoît Hamon trouve un accord avec le Parti Socialiste qu'il a quitté après l'épisode fameux de la présidentielle? Comment imaginer que Yannick Jadot qui pense avoir perdu un peu de son âme en 2017 en étant avec Benoît Hamon, puis à son tour. Donc voilà. Et puis il y a une cohérence quand même. Je fais rapide. Les Verts sont toujours présentés en autonome aux européennes. Donc ça, on peut dire, ça c'est fait. Après ce débat sur dites aux socialistes de voter pour moi car ils siégeront, ils seront représentés par des députés européens écologistes, c'est pas faux non plus. Le vrai problème, c'est le Parti socialiste. Comment aujourd'hui peut-il tenter de reprendre un peu des couleurs? Elles ne sont pas que roses,
puisque sans même avoir de candidat,
Raphaël Glucksmann est donc tête de liste. Il n'y a pas de socialiste à la tête de la liste socialiste. Il s'est associé avec Nouvelle Donne, la belle affaire. Donc c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Quel parti socialiste va pouvoir sortir de ces urnes-là? Un parti pro-européen, mais qui n'a plus de troupes et qui n'a même plus de tête de liste. Donc la question de la gauche en miettes, elle n'est pas programmatique. Elle est dans quel état est la gauche aujourd'hui en France?
François Nonnevain, elle n'est pas programmatique quand même un petit peu
Si, mais c'est un véritable problème politique que vous posez là. On peut trouver dans toutes les situations la liste des bonnes raisons de ne pas s'entendre. Vous les avez livrées et elles sont objectives, ces bonnes raisons. Mais la responsabilité politique pour chacun des camps, à droite et à gauche, c'est quand même d'arriver à continuer à exister dans le paysage.
Elle est arithmétique.
La stratégie choisie là est une stratégie qui laissera la gauche pantelante au Parlement européen, et la gauche française en tous les cas, oui. Pantelante au Parlement européen, et je ne vois pas en quoi ça pourrait être une bonne opération, même si les raisons objectives que vous avez données existent. Parfois, il faut dépasser la situation réelle dans laquelle on se trouve, et avec imagination, trouver des solutions pour ne pas se retrouver dans la muise, comme c'est le cas ici.
Plutôt parler des choses qui rassemblent que des choses qui divisent, quoi.
Enfin, pour dire les choses très simplement, les efforts ont manqué et il y avait un agent profondément diviseur de la recomposition à gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui n'a cessé de souffler sur les braises de la division.
Oui, Bruno Dive, ce sera perdant pour tout le monde à gauche cette élection.
Oui, vous savez, il suffit, on peut faire un peu d'arithmétique. Alors, je sais bien que la politique, c'est pas seulement des additions.
Oh, quand même.
Faisons juste une simple addition. Vous additionnez les 8% d'Europe Écologie, les 5-6% du PS Glucksmann, les 3% d'Hamon, vous êtes déjà à 17, les 2% du PC, vous êtes déjà à 18-19. Vous ajoutez encore Mélenchon, qui ne se dit plus de gauche. Mais bon, mettons que les 8 de la France Insoumise, vous êtes à 25-26, c'est-à-dire que une gauche vraiment unie, alors évidemment tous ne voteraient pas pour cette liste-là, mais pourrait quasiment arriver en tête du scrutin européen. C'est vous dire...
Il y a quand même des vraies différences.
Il y a des vraies... Je fais juste de l'arithmétique.
Oui, bien sûr. C'est
vous dire
que c'est pas que de l'arithmétique.
L'occasion quand même... L'occasion manquée. Mais,
j'ai jamais aimé les maths, moi. C'est l'enfance qui revient.
On sent bien, on voyait dans la déclaration d'Yannick Jadot une petite gêne, parce que c'est son gros handicap, c'est de passer pour le diviseur, celui qui n'a pas voulu de liste d'union. Et il n'en a pas voulu parce qu'il se sent porté par ces élections qui sont généralement favorables aux écologistes.
L'époque a changé, Bruno, non?
Justement, l'époque, il y a quelque chose qui est intéressant de souligner dans un sondage qui sort ce soir de Louis Harris. C'est pas sur les intentions de vote, c'est sur les préoccupations. Et on voit que tout ce qui est écologie, développement durable est en train de progresser d'une manière phénoménale. Donc, moi, je pense que les écologistes peuvent faire un score dans cette élection.
Donc, En Marche a bien fait de déboucher
Pascal Canfin. Et au niveau européen, oui, Pascal exactement. Dio. Qui va prendre des voix à Europe Écologie. Mais au niveau européen, comme au niveau français, ça va être une élection, je pense, assez favorable aux écologistes.
Merci, messieurs. Dans un instant, on évoque un tout autre dossier, le dossier Carlos Ghosn, avec, encore dans le journal du dimanche aujourd'hui, l'appel de son épouse au président de la République. Mais d'abord, 20h40, le rappel de l'info, Jules de Kiss.
La fête peut-être ce soir au Parc des Princes. Le PSG accueille Strasbourg et s'il s'impose, il est sacré champion de France. À cette journée de la fin de la Ligue 1 de football, il ne pourrait plus être rejoint par Lille. Les Lillois, deuxième, ont fait match nul 1-1 cet après-midi contre Reims. Strasbourg, PSG, coup d'envoi à 21h. Sans Kylian Mbappé sur le terrain, il sera sur le banc des remplaçants. Le championnat de hockey, la Ligue Magnus, aurait aussi pu connaître son dénouement ce soir. Mais Grenoble remporte le sixième match de la finale contre Rouen. 3 victoires partout désormais. Le sacre, ce sera donc pour mardi à l'issue d'un 7e match décisif. Un accident dans une fête foraine à Bapaume dans le Pas-de-Calais. Le wagon d'un train chenille s'est retourné. 8 passagers dont 6 enfants souffrent de contusions. Tous sont à l'hôpital ce soir. Des nuits à l'hôtel, puis des solutions plus durables pour les habitants de l'immeuble qui a brûlé hier dans le 19e arrondissement de Paris. Ils vont être relogés dès ce soir. Pas de victimes dans cet incendie qui serait parti d'un barbecue allumé sur un balcon. Pas de membres du gouvernement français, mais 2 députés à Kigali aujourd'hui pour les commémorations du génocide du Rwanda. 800 000 Tutsis tués en 3 mois seulement il y a 25 ans. Le deuil national qui commence ce soir va donc durer pendant 100 jours. Et puis alors que le Parlement algérien désigne dans 2 jours un président par intérim, les Algériens de France vont de nouveau manifester ce dimanche. Ils étaient plusieurs milliers de personnes place de la République à Paris pour demander le départ de tous les proches d'Abdelaziz Bouteflika. Abdelaziz Bouteflika poussé dehors par l'armée et la rue, à 82 ans et malade, il a démissionné en début de semaine.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Julien Lenglet.
Tout le monde a lâché Carlos. Voilà le cri du cœur de Carole Ghosn à la une du JDD ce dimanche. Jeudi à Tokyo, son mari Carlos Ghosn a été arrêté une deuxième fois et incarcéré aujourd'hui. Elle en appelle au président français, dénonce le silence des autorités, silence dont est un peu sorti hier le gouvernement par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.
La France respectait totalement la souveraineté et l'indépendance de la justice japonaise. Et j'ai rappelé aussi notre attachement au respect de la présomption d'innocence et à la pleine application de la protection consulaire.
Est-ce que la France a lâché Carlos Ghosn? C'était Jean-Yves Le Drian lors du G7 à Dinard des ministres des Affaires étrangères. François Nonnevein?
Je ne sais pas si elle l'a lâché, mais comme le dossier est lourd, c'était difficile de se montrer excessivement bienveillante. Mais là, le ministre a rappelé que la présomption d'innocence mérite d'être respectée. Et quand on voit les traitements infligés à Carlos Ghosn, enfin, c'est une brutalité qu'on n'accepterait pas en France. Donc ça pose un certain nombre de questions.
Sur la justice, le fonctionnement de la justice japonaise notamment. Mais enfin, il y a un silence des autorités françaises que dénonce un petit peu Carole Ghosn, l'épouse...
Enfin, pour dire les choses tout à fait clairement, on ne peut pas s'attendre dans un dossier comme ça qu'on défende Carlos Ghosn comme s'il était un otage français pris... Oui. Dans les jauges japonaises.
Alors comment gérer ce type de dossier, Bruno dossier.
Mais dire ce qu'a dit le ministre, le respect de la présomption d'innocence, ça me paraît être, et donc des comportements en rapport avec la présomption d'innocence de la part des policiers japonais, de la justice japonaise, ça me paraît être la dignité humaine, quelle que soit la faute, elle se respecte.
Bruno oui, Dieu. Absolument. Bon, il a tué personne quand même. Donc il mérite. Le dossier est lourd, certainement. Moi, j'en connais pas tous les tenants et les aboutissants. Mais visiblement, ça s'alourdit même de jour en jour, de semaine en semaine. Mais je crois pas qu'il mérite le traitement, la façon dont il est traité dans les prisons japonaises. Alors qu'il soit arrêté à nouveau, ça c'est autre chose. Mais et que le gouvernement français n'ait pas réagi. Mais il n'y a pas que le gouvernement. Moi, j'ai été frappé par le silence de.
Elle parle aussi des patrons. Des patrons, en général,
de l'opinion, des oui. médias. Il faut voir aussi le contexte dans lequel est intervenue la première arrestation de Carlos Ghosn. C'est le surlendemain du premier samedi de manifestation des Gilets jaunes, donc la grande manifestation quand il y avait encore du monde. Et donc c'était déjà difficile pour le gouvernement d'intervenir en faveur de ce PDG milliardaire dans un tel contexte. Les préoccupations de nous tous, des médias, de tout le monde en France était ailleurs.
Ouais.
Et donc je pense que beaucoup de et les patrons, ses collègues n'ont pas eu envie non plus de trop se manifester. Et donc je crois que le contexte dans lequel aussi, le contexte français dans lequel
ça a joué pour vous
est intervenu, cette arrestation est intervenue a dû jouer.
Denis Sieffert, ça vous émeut cette situation sans en rajouter.
Il y a des drames dans le monde. monde qui sont plus émouvants que celui-là. Sans doute, la justice japonaise se montre très intransigeante et très dure. Mais je crois que ce qu'il vient de dire, Mounoudi, est très juste. C'est-à-dire que c'est le contexte qui, un contexte politique. L'affaire a éclaté, en effet, en plein début du mouvement des Gilets jaunes. Et Ghosn, à son insu, évidemment, est devenu le symbole, en fait, des super riches, de la finance et de tout ce
c'est un peu ça,
toutes ces détestations qui mobilisent les gens. Sentiment d'injustice et de justice sociale, non pas en faveur de Ghosn, mais de l'injustice sociale. Et aussi l'impression que ces personnages ont eux-mêmes un sentiment d'impunité. Qui peuvent tous permettre. Et on voit à mesure que le dossier s'alourdit, qu'il y a en effet cette présomption maintenant d'enrichissement personnel très évidente, semble-t-il. Et donc tout ça nourrit un ressentiment politique. Et je crois que le silence du gouvernement, il est là. Ça aurait été extrêmement maladroit d'intervenir sabre au clair en faveur d'un malheureux Français emprisonné par d'horribles Japonais.
On va écouter quelques secondes un extrait justement de la seule interview qu'a donné Carlos Ghosn juste avant d'être de nouveau incarcéré par la justice japonaise. C'était sur TF1 et LCI. On écoute l'ancien patron de Renault Nissan.
Il y a un acharnement. Cet acharnement, il n'est pas récent. Il a démarré le jour de mon arrestation. Il ne s'est jamais arrêté. Il n'y a pas eu un jour, il n'y a pas eu une semaine au cours desquelles il n'y a pas eu de nouvelles accusations, il n'y a pas eu de nouvelles rumeurs. Et on sait très bien quelle en est l'origine. Il y a quelques personnes à l'intérieur de Nissan qui sont à l'origine de ça. Ils bénéficient de complicité aussi à l'extérieur de Nissan. Ils ne se sont pas suffi d'influencer et d'agir au Japon. Ils agissent à l'extérieur du Japon et notamment en France.
Voilà, une interview réalisée par TF1 et LCI de Carlos Ghosn. Serge Simino, on ne vous a pas entendu sur le sujet. Bon, en même temps, je ne vous ai pas donné la parole, mais vous allez pouvoir...
J'attendais Carlos Ghosn pour m'exprimer.
Voilà, non, mais cette situation paraît assez incroyable quand même, vu de France. Hein.
Voilà, ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est que cette idée qui, au tout début de l'affaire, se faisait jour, c'était le complot interne à Renault-Nissan qui venait des Japonais.
Je précise juste que cette interview était réalisée parce qu'il ils avaient justement la crainte, ses avocats et Carlos Ghosn, d'être arrêtés de nouveau après avoir annoncé la tenue d'une conférence de presse qui devait avoir lieu la semaine qui arrive là. Et finalement, il a fait cette interview, visiblement, sachant qu'il allait être arrêté de manière imminente.
Mais c'est vrai que cette thèse qui était défendue par ses amis grands patrons en France à ce moment-là, est très vite retombée. Et c'est vrai que, alors, bien sûr, la présomption d'innocence, inutile d'en faire un débat. À partir du moment où elle s'applique à tout le monde de la même manière, qu'on soit puissant ou pas. Mais il y a quand même des nouveaux soupçons. Alors ça reste des soupçons de nouvelles malversations. Donc vous le disiez, le dossier est quand même assez lourd. Après ce qu'a dit Jean-Yves Le Drian dans l'extrait que vous avez passé, c'est du service minimum nécessaire. C'est-à-dire à la fois on ne fait pas d'ingérence et nous rappelons à nos amis japonais qu'il y a la présomption d'innocence. Après pour la suite, le dossier est ce qu'il est et nous verrons ce qui arrive. Après Madame Ghosn a quitté le Japon de peur sans doute peut-être d'être un peu plus inquiétée. Elle en appelle à Emmanuel Macron. Pour l'instant, je pense que l'appel n'a pas été entendu.
C'est quand même un capitaine d'industrie. Hein, c'est aussi
ça n'enlève rien.
Ça s'étonne un peu peut-être de cette retenue générale.
La justice est la même pour tout le monde, a priori.
Oui, c'est vrai qu'au Japon, on se plaint souvent de la justice française. Mais enfin, il y a certains certains fonctionnements de la justice japonaise qui peuvent interpeller. En France, ce serait absolument impossible
mais
de voir ça.
Mais à mon avis, il y a dans la procédure japonaise la volonté délibérée que quelqu'un mis en examen finisse par craquer. Et donc, on se comporte avec lui pour l'amener à affaiblir ses propres résistances. Et ça, je trouve ça assez choquant.
Forme de torture.
Oui, ça se passe quand même au Japon. Dans un instant, messieurs, eh bien, votre carte blanche du dimanche. Mais d'abord, le rappel de l'info, 20h50, avec Jules de Kiss.
À la veille des conclusions du grand débat présenté demain par Emmanuel Macron, les maires ruraux demandent sur France Info des signaux très forts. Leur représentant, Vanik Berberian, attend des mesures liées au pouvoir d'achat et à la diminution des inégalités entre ville et campagne. Cité notamment l'accès à l'internet au débit, à la santé, aux services administratifs. La cantine à 1 euro dans des milliers de communes volontaires et des petits déjeuners gratuits dans les quartiers, dans les écoles des quartiers en difficulté. Ces deux mesures du plan pauvreté vont entrer en vigueur d'ici la fin du mois, annonce le gouvernement. 21 morts en 3 jours en Libye et des blessés qu'il faut évacuer. Les Nations Unies demandent une trêve des combats immédiate. Des affrontements au sud de la capitale Tripoli, ils opposent les forces gouvernementales soutenues par la communauté internationale à celles du général Haftar. C'est le militaire qui contrôle tout l'est du pays. 20 délégations étrangères aujourd'hui à Kigali pour commémorer le génocide du Rwanda il y a 25 ans. Le premier ministre belge sur place a concédé des fautes de son pays ancien colonisateur. La France représentée par 2 députés mais aucun membre du gouvernement. Dans 10 minutes maintenant, coup d'envoi du match PSG Strasbourg. Les Parisiens sont à un match d'un 8e titre de Ligue 1 de football. Ils doivent s'imposer face aux Alsaciens pour être sacrés. Ils profiteraient alors du match nul de Lille, leur dauphin, un partout tout à l'heure sur la pelouse de Reims. Et puis l'Italien Alberto Bettiol remporte le Tour des Flandres cycliste. À 25 ans, c'est sa première victoire en professionnel. Il a franchi la ligne seul avant tous les favoris.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Julien Lenglet.
Et la dernière partie, déjà, ça passe très vite des informés avec, comme chaque dimanche, la carte blanche de nos invités. Alors, je ne sais pas qui a envie de commencer. On va démarrer, allez, avec Denis Sieffert qui est à ma droite, le directeur de la rédaction de Politis. Qu'avez-vous choisi, Denis, aujourd'hui? Une publicité d'un genre un peu particulier, c'est ça?
Oui, on est à 48 heures des élections israéliennes qui sont très importantes et il se trouve que l'une des femmes les plus importantes du paysage politique israélien, qui s'est beaucoup déplacée vers la droite,
oui, on parlait
Ayelet
Shaked, dans
qui est
infos, ouais,
ministre de la Justice, a rien trouvé de mieux, et c'est un goût extrêmement douteux, que de se parfumer avec un spray qu'elle a appelé fascisme. Alors, c'est, dit-elle, de l'humour, mais quand on connaît ses positions, qui sont celles d'annexer une grande partie de la Cisjordanie, et d'ailleurs elle est influente, puisqu'on a appris ce soir que Netanyahou suivait en fait son conseil, c'est d'un très très mauvais goût. Et c'est en effet porteur, disons, d'affrontements futurs dans cette région du monde qui est déjà terriblement frappée par la violence.
Carte blanche en forme un peu de coup de gueule quand même, un peu
de colère. C'est plus un coup de gueule, c'est absolument insupportable et d'un goût extrêmement douteux. Et encore une fois, c'est lourde menace pour la situation de ce pays, parce que c'est la fin de cette idée des deux États. Je pense qu'elle était déjà très très mal en point, mais qui date de 1967 grosso modo. Hein. Et là, c'est une impasse totale pour les Palestiniens. Donc, c'est porteur de violence et peut-être d'une reconfiguration du débat vers une revendication de citoyenneté de tous les citoyens entre le Jourdain et la Méditerranée. Mais c'est une autre affaire.
Serge Simineau, journaliste au service politique de France 3, votre carte blanche à vous.
Moi, je vous emmène au cinéma. On parlait tout à l'heure du président de la République. Moi, je voulais vous ramener 2 ans avant, lorsqu'il faisait campagne, un documentaire d'Audrey Gordon qui s'appelle « Première campagne », qui ne suit pas Emmanuel Macron, mais qui suit l'une des journalistes du service politique de France Télé, qui faisait elle aussi sa première campagne. Il est devenu président de la République, elle est toujours journaliste, je vous rassure. Ça montre malgré tout, toutes ces facilités qui sont dites sur la profession, que le recul est possible lorsqu'on suit, sans le savoir avant l'heure, le futur président de la République. Mais lorsqu'on fait notre métier de journaliste politique, nous ne sommes pas dans la connivence tous les matins, nous ne sommes pas dans la facilité et le simplisme. Et ça démontre ça. Première campagne, il sort le 17 avril.
D'accord, et bien c'est noté. Première campagne, le 17 avril. Bruno Dive.
Moi, je me suis intéressé à ce que j'ai appelé le bal des présidents, c'est-à-dire l'actuel président dont on vient de parler, Emmanuel Macron, mais aussi ses deux prédécesseurs, donc Nicolas Sarkozy et François Hollande, parce qu'il y a une espèce de jeu à trois qui est assez subtil et plutôt amusant.
Bon, un jeu à trois dans lequel il y a quand même un parmi les trois qui est un peu plus à l'écart.
Exactement, vous savez, c'est ce que disait Bismarck, dans un jeu à trois puissances, mieux vaut être l'une des deux. Et celui qui n'en est pas en ce moment, c'est visiblement François Hollande, tenu à l'écart, volontairement ou pas, enfin en tout cas pas très bien traité par son successeur et ancien patron, mais ancien collaborateur, mais bon, c'est sans doute d'ailleurs une des erreurs que fait Emmanuel Macron, ça lui coûterait pas cher de faire un petit geste envers François Hollande, mais il préfère visiblement les faire envers Nicolas Sarkozy, avec qui il a emmené il y a 8 jours au plateau des Glières, et on voit bien que ça fait partie d'une stratégie c'est ce qu'on disait au début de cette émission, une volonté de séduire la droite, mais je pense quand même qu'il y a une certaine affinité entre les deux hommes. Alors, ce sont deux bêtes politiques.
On a beaucoup dit qu'ils se ressemblaient.
Ils se ressemblent
sur certains
aspects. Le côté exercice assez solitaire du pouvoir, assez décisionnaire toujours sur la brèche, mais ce qui aide aussi, c'est qu'ils ne se sont jamais affrontés, et ça aide à créer les sentiments. Et ça confirme aussi, pour l'anecdote, une loi de la Ve République, une loi plus générale, c'est qu'un président, on n'aime jamais ni son successeur, ni son prédécesseur, et donc on préfère toujours celui d'avant ou celui d'encore après, peut-être.
Merci Bruno Dive pour cette analyse, qui était d'ailleurs dans Sud-Ouest un petit peu ce matin, je crois. François-Edmond Wein, journaliste au journal La Croix, pour nous présenter la une du journal de demain, c'est ça ?
Consacré aux divorcés et remariés, comment l'Église évolue sur cette question, leur statut, leur place.
Mais votre carte blanche à vous,
alors, je vous
n'a
emmène
rien à voir avec ça.
Je vous emmène à Weimar, c'est pour le centième anniversaire du Bauhaus. Alors le Bauhaus, c'est une école d'architecture, d'art, qui a eu des effets sur la danse, la photographie, le costume. Ça a été une mine créative, traquée par les nazis à partir de leur arrivée au pouvoir, et qui a marqué profondément notre environnement visuel, le design, je disais tout à l'heure, l'architecture et la créativité, l'élan porté par le Bauhaus a été formidable au début du XXe siècle.
Et en tout cas, on sent que ça vous passionne.
Oui, ça m'intéresse, oui.
Bon, eh bien, merci de nous avoir fait partager cette passion, François Edmond Wein. La une du journal La Croix, vous pouvez peut-être la montrer, je sais pas si on la voit bien pour demain. Divorce, le titre. Oula, divorce, remarié, comment l'Église évolue, dossier donc à retrouver
dans La Croix,
demain.
Une enquête de deux pages.
De deux pages, très bien. Merci François Edmond Wein, merci à Serge Simineau d'avoir été là, merci à Bruno Dive, à Denis Sieffert, merci à Manon Assad, à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission Désinformée.